bonsoir. Entrons ensemble dans le temps du débat jusqu'à 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, la démocratie est-elle un marché comme les autres? Alors que la Convention citoyenne pour le climat, qui se réunit une fois tous les 15 jours au Palais d'Iéna à Paris, a été repoussée au début janvier en raison des manifestations et des mouvements de grève, le temps du débat s'intéresse ce soir à ces technologies supposées aider à l'émergence justement d'une démocratie participative, comme c'est le cas pour cette Convention citoyenne. Depuis 2 ans, nombre de start-up, de sociétés privées se sont créées dans le but de faciliter la prise de parole des citoyens dans l'espace public. Nous en parlerons ce soir avec nos 4 invités. Mounir Majoubi, il est député LREM et ancien secrétaire d'État chargé du numérique. Antoine Brachet est directeur exécutif de Bluenov, co-président de Démocratie Ouverte. Il nous expliquera justement comment ces institutions sont en charge justement de ces débats participatifs. Alice Mazot est avec nous. Elle est maître de conférence en sciences politiques à l'Université de La Rochelle, co-autrice du Marché de la démocratie participative avec Magali Nonjon aux éditions du Croquant. Et Maïté Rouane est docteur en sociologie et au Centre national des arts et métiers, et sa thèse porte sur les initiatives culturelles citoyennes.
Enquête publique, consultation citoyenne, budget participatif, démocratie participative, autant d'initiatives dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Mais comment déployer des démarches participatives à grande échelle ? Une méthode de participation citoyenne fait appel à l'intelligence collective. Il s'agit de prendre en compte la diversité des personnes, des expériences et du quotidien des publics concernés pour construire un projet ou obtenir un avis. En complément des rencontres en présentiel, les réseaux sociaux et les technologies du numérique, plus couramment appelées civic tech dans ce contexte, permettent d'impliquer les publics à l'échelle d'Internet.
Voilà, il s'agit d'un extrait d'un MOOC, d'un cours en ligne intitulé « Participation citoyenne, méthode et civic tech » proposé par l'Institut national de recherche dédié aux sciences du numérique. Bonsoir Mounir Majoubi.
Bonsoir.
Il va falloir s'habituer à ces expressions qu'on entend ici, le présentiel, les civic tech et tout un tas d'autres expressions qu'on va sûrement utiliser mais qu'il faudra traduire pour nos auditeurs ce soir.
Je ferai très attention.
Et pour vous Antoine Brachet, c'est la même chose, bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que par exemple Bluenov et Démocratie Ouverte dont vous êtes co-président pour l'un et directeur exécutif pour l'autre ?
Côté Bluenov, en fait, on s'intéresse à la transformation positive des organisations et on essaie de
transformation faire positive. C'est pareil. Comment
je peux tout à fait
développer.
Il ne vous aura pas échappé que dans les circonstances en cours, il y a d'autres mots clés qui sont en train d'arriver, entreprise à impact, Bicorp, etc.
Ah non, pareil, vous les traduirez plus au fur et à mesure.
Je les traduirai au fur et à mesure. En l'occurrence, l'idée sous-jacente est de se dire que les organisations, quelles qu'elles soient, doivent peut-être participer non seulement à l'épanouissement de ceux qui y travaillent, mais aussi de manière plus large celle de la société dans son ensemble. Beaucoup d'organisations privées et ou publiques commencent à s'interroger sur ces sujets. Nous, chez Bluenov, en fait, on essaye de mettre en place des méthodologies, des dispositifs qui durent quelques mois, qui consistent à permettre à ces organisations de faire se révéler chez elles l'objectif qu'elles souhaitent atteindre. Grosso modo, c'est non pas se dire je vais mobiliser quelques experts pour aller dans cette direction, mais l'ensemble des collaborateurs du groupe.
Ça, c'est à l'intérieur des entreprises, mais pour ce qui est de la démocratie, et qui ne serait pas une démocratie interne aux entreprises, mais qui serait une démocratie telle qu'on l'entend depuis le 5e siècle à Athènes, c'est-à-dire la participation des citoyens aux décisions collectives, qu'est-ce qu'il en est justement des sociétés de civic tech, puisque j'imagine que c'est comme ça qu'on peut qualifier soit Bluenov, soit Démocratie Ouverte.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le terme civic tech, à mon avis, n'est pas le bon. Parce qu'en fait, on a l'impression que ce qu'il y a de principal, c'est la technologie, alors qu'en fait, elle n'est pas du tout principale. Ce qu'il y a de principal, c'est de se poser la question de ce qu'on est aujourd'hui capable de faire en permettant à un certain nombre de personnes de converser entre elles. Le mot-clé, c'est celui de la conversation. Comment est-ce qu'on arrive à activer cette conversation ? Derrière, il peut se passer pas mal de choses.
Mounir Majoubi ?
Oui, il faut revenir assez basiquement sur que peuvent être les missions que l'on donne à la démocratie participative. Qu'est-ce qu'on attend d'un processus de démocratie participative ? Il y a la base de la base, c'est le diagnostic participatif. On demande aux gens qui nous proposent un témoignage de ce qu'ils ont vécu et qui nous permet d'avoir, quand on est le décideur, une sensation beaucoup plus proche de la réalité de ceux qui vivent les choses. Donc c'est le diagnostic. Deuxième chose, c'est demander son avis sur des choses qu'on a déjà construites. Donc là, c'est par exemple quand on propose un projet architectural, un projet urbain ou un projet de loi aux citoyens, on leur dit « voilà, on a déjà écrit ça, vous en pensez quoi ?» Ça, c'est la deuxième étape. La troisième, qui est la plus belle, la plus mature, la plus intéressante, mais la plus dure à mettre en place, c'est la co-construction. C'est de dire « ensemble, on va écrire et construire un dispositif législatif, urbain, un dispositif humain, et c'est vous qui allez, par votre participation et vos échanges, pouvoir le faire. » Et puis après, il y a une autre étape encore, qui est la décision. La décision, c'est autre chose. La décision, c'est de dire, vous allez vous-même voter à la place de vos représentants. Vous allez pouvoir voter directement sur la chose. Et puis, il y a une autre étape, qui est celle qui, moi, me fait vraiment rêver. Celle pour laquelle je me battrai toutes ces prochaines années. C'est l'évaluation et la transparence publique. C'est-à-dire que même une fois qu'on a fait tout ça, les citoyens peuvent être mobilisés pour regarder ce qui est fait, amener de la contradiction dans ce qui est fait et demander de la transparence. Et si on fait tout ça, notre démocratie, elle va fonctionner un peu mieux. Mais la réalité, c'est que les gens, c'est des gens, les humains, ce sont des humains, et on n'est pas d'accord. Donc, sur chacune des étapes que je vous ai racontées, ce qu'un processus de démocratie participative doit permettre, c'est l'échange de diagnostics différents, de volontés différentes, d'éléments différents. Et comment on arbitre ?
Alice Mazo, bonsoir. Vous m'entendez, Alice Mazo ?
Oui, je vous entends.
Bonsoir, Alice Mazo. Évidemment, vous avez suivi, vous, pour votre travail, justement, la mise en place d'une démocratie participative voulue à l'époque, je crois, par Ségolène Royal dans la région du Poitou-Charentes, qui est chère à mon cœur, cette région. En l'occurrence, vous avez suivi cela et vous en avez fait, avec Magali Nonjon, une critique assez sévère, d'une certaine façon, pas simplement de cette expérience du Poitou-Charentes, mais de l'ensemble de la démocratie participative, en appelant ça le marché de la démocratie participative, dans un livre qui est paru l'année dernière aux éditions du Croquant. Et vous tentez de justifier pourquoi il y a ce terme de marché et pourquoi il n'est pas mauvais, mal employé pour pouvoir évoquer cette question de la démocratie participative telle qu'elle est en train de se mettre en place avec ces sociétés dont on nous disait à l'instant même qu'il ne fallait pas les appeler des sociétés de civic tech.
Effectivement, nous, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que derrière la multiplication des dispositifs participatifs, il y a tout un univers professionnel et marchand qui s'est mis en œuvre. Et que cet univers professionnel et marchand, il n'est pas neutre, il n'est pas sans effet sur les types de dispositifs qui peuvent se déployer, mais que par ailleurs, il faut prendre en compte que le déploiement de ces dispositifs participatifs, même si on s'intéresse aux relations entre les acteurs politiques et administratifs, c'est pas seulement pour des questions démocratiques qu'ils se déploient, ça s'inscrit aussi dans un contexte de compétition, compétition politique, compétition entre les territoires. Et donc pour ces deux raisons-là, système professionnel et marchand d'une part et compétition politique et territoriale d'autre part, on a considéré qu'effectivement la démocratie participative, telle qu'elle se déploie, telle qu'elle se diffuse et telle qu'elle s'institutionnalise, relevait de ce jeu du marché, et c'est ça qu'on a essayé de travailler avec Magali Nonjon.
Ce qui n'était pas d'ailleurs évident au tout départ, puisque évidemment ces premières expériences de démocratie participative se voulaient, disons, non seulement, pas simplement bénévoles, mais se voulaient d'une certaine façon véritablement démocratiques, sans introduction du marché. Ce qui est arrivé, c'est que le marché est arrivé par surcroît.
Effectivement, ce qui s'est passé, c'est que si on regarde les premiers temps, on a plutôt des expériences qui relèvent du militantisme et du militantisme amateur, mais progressivement, à partir du moment où les administrations ont commencé à se doter de services administratifs dédiés à la participation, à partir du moment où elles ont commencé à faire appel à des entreprises qui proposent des conseils, qui proposent des outils en matière de démocratie participative, ça ne relève plus seulement du militantisme, de la cause et d'approfondissement démocratique, ça relève également des concurrences professionnelles et du jeu du marché. Mmh.
Maïté Rouen, vous êtes docteur en sociologie au CNAM et vous avez travaillé, vous, sur la question de la démocratie participative et de l'économie solidaire, et surtout des contre-propositions qui peuvent venir du terrain. Justement, ces contre-propositions telles que vous les avez analysées dans votre travail de thèse que vous avez soutenu l'année dernière, de quelle nature sont-elles et est-ce que justement elles sont très rétives avec l'arrivée justement de ce marché des civic tech, qu'il ne faut pas appeler civic tech selon Antoine Brachet?
Bonjour. Oui, bon, effectivement, moi, je voudrais revenir avant de répondre à votre question, sur deux facteurs, enfin, deux enjeux qui me semblent importants, qui sont, D'une part, une transformation assez profonde des politiques publiques avec l'introduction du New Public Management qui fait qu'aujourd'hui...
Qu'est-ce qu'on appelle le New Public Management quand on n'est pas spécialiste d'administration publique, justement?
C'est l'importation dans l'administration et dans la gestion des politiques publiques de tout un ensemble de mécanismes qu'on pourrait appeler manageriaux, où on va avoir de plus en plus une gouvernance par les nombres, la montée en force de logiques d'évaluation qui vont être beaucoup plus quantitatives au détriment du qualitatif, des logiques de standardisation assez fortes. Et aujourd'hui, ça, on le voit, ça impacte très durement la sphère associative, la sphère de l'économie sociale et solidaire. Toutes ces initiatives citoyennes qui essayent d'être des contre-pouvoirs dans les quartiers, dans les territoires locaux, aujourd'hui, elles sont durement impactées par notamment des logiques d'appel d'offres quand elles recherchent des financements. On a vraiment le passage d'une culture de la subvention à une culture de l'appel d'offres qui fait qu'elles sont obligées de développer des logiques d'évaluation de leur action qui rentrent en contradiction avec leur vocation et leur projet sociopolitique.
Et donc, est-ce qu'elles inventent de leur côté d'autres manières de faire qui seraient justement contradictoires avec l'importation de cette logique du nombre que vous décrivez, Maïté Rouane?
Oui, dans certaines initiatives que j'ai pu étudier, on a notamment la logique du commun qui émerge, où justement voilà, des associations ou des communautés s'auto-organisent autour de ressources partagées et mettent en place des systèmes de gouvernance collective où l'ensemble des citoyens donc, qui exploitent la ressource vont participer aux décisions justement et vont être dans la logique de co-décision. Et ce qu'on remarque souvent, notamment dans le cas espagnol, c'est que ces communs ne sont pas pour la plupart dans une forme d'autarcie vis-à-vis du système capitaliste, mais elles essayent de le questionner et elles essayent de tisser des liens avec les pouvoirs publics pour institutionnaliser toutes les innovations qui sont mises en place dans ces communs.
Une des questions qu'on pourrait se poser, Mounir Majoubi, c'est de se demander... pourquoi le marché doit intervenir dans ce type de décision? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a besoin, est-ce que d'une certaine façon, il n'était pas naturel que, bah, disons, la représentation traditionnelle organise cela sans passage par des appels d'offres, par le marché, pour pouvoir organiser cette démocratie participative? Elle ne pourrait pas s'organiser sans, justement, ces civic tech, sans ces sociétés dont nous parlera dans un instant Antoine Brachet?
En fait, pour réussir à mener les différentes missions dont nous parlons depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le diagnostic, la décision partagée, l'évaluation, pour cela, il faut à la fois une méthode, il faut une volonté, il faut une organisation qui va recevoir l'information, donc l'administration, il faut qu'elle s'organise pour recevoir cette information qui revient, et puis il faut des outils. À l'Assemblée nationale, vous savez, je suis député, quand on vote, on a un prestataire qui a installé le système de boutons et d'informatique de l'Assemblée nationale. Le site de l'Assemblée nationale, c'est un prestataire, il y a un marché des sites internet, qui est d'ailleurs bien plus gros que le marché des civic tech, si on se dit les choses, qui a mis en place ces outils. Donc faut pas avoir peur d'avoir des prestataires qui fournissent des solutions techniques pour le faire. Par contre, là où je suis prêt à questionner, c'est que les prestataires arrivent pas uniquement avec des outils neutres. Ils arrivent avec des outils, c'est un débat qu'on a déjà eu avant, ils arrivent avec des outils avec des logiques et des méthodes préconçues et préintégrées au dispositif. Oui. Ce qui fait que, moi, à plusieurs reprises, en tant que secrétaire d'État, en tant que responsable de campagne électorale, en tant que responsable d'un parti politique, La République En Marche...
On venait taper à votre porte.
Dans les trois cas, moi, j'achète. C'est-à-dire que dans les trois cas, j'étais responsable de la mise en place à l'intérieur de la campagne ou à l'intérieur d'un parti, des dispositifs pour faire ce dialogue consultatif avec les citoyens. Je vais vous prendre l'exemple de La République En Marche pendant la campagne présidentielle. On a décidé de faire nous-mêmes. C'est-à-dire que pendant la campagne présidentielle, on a intégré une équipe technologique avec une équipe de démocratie participative interne qui a travaillé à créer les outils pour créer du participatif. Pour la campagne de Paris qui démarre, là on a fait un modèle mixte autour de Benjamin Griveaux. Il y a à la fois une équipe technique intégrée, mais il y a aussi deux entreprises suite à des appels d'offres et à une mise en compétition. Mais attention, comme on est très mature sur ce qu'on demande, on a pu exiger...
Qu'est-ce que vous appelez très mature, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'on n'a pas juste dit on cherche un prestataire en démocratie participative, on a dit... Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en place une campagne des 240 quartiers. On veut donc un outil qui permet de gérer la mobilisation à l'échelle d'un quartier. Et on veut un deuxième outil qui permet la consultation autour de propositions pour faire de la confrontation d'idées.
Alors on n'en est plus simplement au tractage, on n'en est plus à la pose d'affiches, on est à un autre niveau justement de la question de la démocratie.
Ah complètement, mais si on prend l'exemple de la campagne de Paris qui démarre là, la municipale, je parle de La République En Marche et Griveaux, mais on pourrait parler des autres partis parce qu'ils le sont tous aussi. On a choisi de faire une campagne découpée en 240 quartiers pour qu'à l'échelle de chacun des quartiers, il y ait un dispositif de diagnostic de quartier, de co-construction citoyenne des projets, de proposition de projets de quartier. Enfin, ça y est, maintenant ça rentre. Et donc ce que j'essaye de vous dire, c'est faut une organisation qui s'est adaptée à ça, qui sait ensuite les outils dont elle a besoin, mais ça n'est pas gratuit que de prendre des outils open source. Prendre un outil open source,
open source, ça veut dire que les données sont ouvertes et qu'on peut, enfin le logiciel est ouvert,
le code source est accessible. Si je sais l'utiliser, je peux l'utiliser tout seul. Sauf que c'est pas possible. Si je veux installer ce type de logiciel, il faut que je recrute dans mon équipe, que je paye les salaires de personnes qui savent l'utiliser. Et ben ça coûte très cher. Donc c'est pour ça que parfois prendre un prestataire, c'est intéressant. Après, il y a un sujet avec les prestataires qui ont des technologies fermées, où vos données sont enfermées et où vous ne pouvez pas choisir la méthode. Là, c'est le modèle des prestataires des 5-6 dernières années, où quand on rentrait avec l'un, on restait bloqué.
Antoine Brachet, c'est quoi votre modèle justement ? Fermé ou ouvert ?
Il est plutôt ouvert, grosse modo.
C'est quoi ? C'est comme une porte à moitié ouverte, à moitié fermée.
Je vais répondre et je vais rebondir sur dans l'ordre. Par rapport à ce que vous avez maïté, je suis très sensible à ce que vous étiez en train de dire, parce que je viens du monde de l'activisme, et le sujet, c'est comment est-ce qu'on essaie de faire progresser les choses. Pour moi, la démocratie, en gros, c'est un champ d'expérimentation permanente. Je relisais l'autre jour Kamel Daoud qui disait « Ne vous bercez pas d'illusions, hein, la démocratie, elle est mortelle. » Et grosso modo, il a vu comment ça s'est disparu entre 90-92. Deux siècles ont disparu en deux semaines. Derrière, comment est-ce qu'on fait ? Il y a plusieurs méthodes. Des méthodes alternatives, des méthodes qui sont celles qu'évoquait Mounir Majoubi. De mon point de vue, sur cet aspect-là, en fait, il faut qu'on arrive à faire progresser la méthodologie. On en est encore à la préhistoire. Je vous donne l'exemple du Grand Débat National.
Que vous avez co-organisé.
On a participé à l'analyse, pour être très précis, des contributions libres issues du Grand Débat National.
Et vous participez à la Convention citoyenne sur le climat dont je parlais tout à l'heure.
Donc, si on rentre dans le détail, et ça va répondre à votre question, la méthodologie qu'on a souhaité utiliser, en partenariat d'ailleurs avec une autre société qui s'intéresse à ces travaux-là, c'était de dire comment est-ce qu'on est capable de refléter l'expression citoyenne telle qu'elle s'exprime exactement. Sous-entendu, est-ce que même si 4 thèmes avaient été fixés par le gouvernement, peut-être que les gens ont envie de s'exprimer sur d'autres sujets. Au final, 8 thèmes ont émergé. Les 4 initialement prévus et 4 autres. Le sujet pour nous, c'était ça. Et je termine ma réponse à la question. On avait proposé au comité des garants la chose suivante, et c'était un engagement d'ailleurs du gouvernement, c'était de pouvoir faire en sorte que soit mise en open data l'ensemble des données qui auront été collectées. À ce stade, ça n'est pas encore totalement effectif de mon point de vue. Non seulement avions-nous proposé de le mettre en open data, mais également de mettre en place une interface qui permet de les rendre facilement accessibles. Concrètement, un arbre dans lequel on voit ce qui fait consensus et ce qui fait clivage, parce que c'était notre méthodologie de représentation, et les gens pourraient derrière aller d'étape en étape, sous forme de poupée russe, voir jusqu'au verbatim ce qui avait été exprimé. Voilà, l'idée derrière également, c'est qu'on avait fait en sorte que naisse un observatoire du grand débat en disant « nous, on va produire une synthèse, très bien, mais, ça a été dit, on a des biais, on a une méthodologie, et peut-être que c'est pas la meilleure méthodologie, on apprend en marchant. On aimerait que des chercheurs puissent aller s'emparer de l'ensemble des résultats, et pourquoi pas produire des synthèses qui soient différentes de celles que nous avions produites. »
Alice Mazot, de l'apprentissage en marchant à l'apprentissage du marché, qu'est-ce qui s'est passé d'une certaine façon ? C'est-à-dire comment, au bout du compte, cette question du marché est entrée dans cette question-là ? Je sais bien que Mounir Majoubi m'a dit tout à l'heure qu'à l'Assemblée nationale, il y avait de l'argent qui circulait parce qu'il y avait des marchés pour pouvoir justement voter à l'Assemblée nationale, je le comprends bien, mais il y a cette question de... d'une sorte, on a l'impression, mais peut-être est-ce que je me trompe et je vais peut-être être contredit par les participants à ce débat, qu'il y a une sorte de captation de cette volonté qui a été décrite tout à l'heure par Maïté Rouane de participer à la discussion publique par justement des entreprises de marché.
En fait, le problème c'est pas tant la captation par des entreprises de marché. Moi, je suis pas en désaccord avec le fait de faire appel à des prestataires pour réaliser un certain nombre de missions et pour déployer un certain nombre d'outils. C'est pas du tout ça l'objet de notre critique. L'objet de notre critique, c'est de dire que le jeu du marché a pour effet de se focaliser, et on voit bien depuis tout à l'heure, c'est ça l'objet, on se focalise sur les outils, on se focalise sur les méthodes, on se focalise sur ce qui est commercialisable, sur ce sur quoi on peut se distinguer, on peut se faire remarquer et marquer sa différence.
Ce que Caroline Lee aux États-Unis a appelé les évangélistes de la procédure, c'est ça ?
Exactement. Exactement, c'est-à-dire que je reprends tout à fait, je partage la formule de Caroline Lee, c'est-à-dire qu'on est sur des démarches où on est sur de la focalisation principale, pour ne pas dire exclusive, sur les procédures, et où la procédure participative devient sa propre finalité. L'objectif, c'est plus de développer une démarche pour un certain nombre de finalités, qu'elles soient démocratiques, sociales, etc. L'objectif, c'est de faire participer. Et on voit bien, là, dans le contexte des municipales à venir, où c'est la surenchère procédurale, où chacun veut son nouvel outil, parce que le thème participatif est à la mode, et que, bah voilà, on va avoir à nouveau une nouvelle multiplication d'outils. Les outils sont disponibles, effectivement, les prestataires sont là pour les commercialiser. Ils sont disponibles, ils sont relativement faciles à mettre en œuvre, et du coup, ça vient se substituer à une réflexion sur les finalités démocratiques, où les plus-values possibles, au sens plus-value démocratique et plus-value au sens pour les politiques publiques, de ce que peut apporter une réflexion avec la participation des citoyens.
Envie de faire valoir vos idées, mais vous ne savez pas vraiment comment ? Et si, pour aider la démocratie, on pouvait voter pour ces idées ? Découvrez e-démocratie, le premier réseau social à faciliter le débat public en créant du lien entre citoyens, élus et administration.
Avec Fluicity, Monsieur le maire peut dorer l'avant, consulter les citoyens en temps réel, partager avec tous les habitants les projets de la commune, enrichir le débat municipal grâce aux données Fluicity et adapter la prise de décision du conseil, réengager la communauté dans le débat citoyen.
Kawa utilise la technologie pour développer les relations humaines. Nous sommes une plateforme collaborative pour l'organisation d'événements citoyens.
Vous voulez faire avancer le débat ? Bravo et bienvenue sur Politiqueur. Vous pourrez soumettre vos idées et soutenir celles des autres, définir des objectifs à atteindre dans votre ville et soutenir les objectifs déjà proposés.
France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Un temps du débat consacré à la démocratie comme marché comme les autres, avec, on vient d'entendre, des extraits de vidéos de présentation de e-démocratie, de Kawa, de Fluicity et de Politiqueur. Il y a combien de sociétés, de start-up qui travaillent autour de ces questions-là, puisque vous étiez au secrétariat d'État au numérique, vous avez dû les compter à un moment ou à un autre, Mounir Majoubi ?
Plus d'une centaine en français et en France. Et j'ai eu à plusieurs reprises la lourde tâche de répondre à chacun que non, on n'allait pas pouvoir les utiliser tous. Et que l'enjeu n'était pas...
Qu'est-ce qui les distingue ? Parce qu'on entendait tout à l'heure Alice Mazo nous dire chacun, c'est la tyrannie de la petite différence d'une certaine façon.
Ce que Madame Mazo dit, et on ne peut que la soutenir, c'est qu'il ne faut pas faire du participatif juste pour faire du participatif et en faire un argument de campagne, en faire un argument de modernité. Vous avez vu à quel point je fais du participatif, je suis moderne. Moi, ça fait depuis Ségolène Royal en 2006 que je fais du participatif avec le cœur et avec des gens qui y croient fort. Après, on peut critiquer est-ce qu'on allait vraiment sincèrement jusqu'au bout, mais on peut critiquer ceux qui le font pour de faux. Mais justement, aujourd'hui, on en a un moment de maturité où les gens le font pour de vrai. Et mieux que ça, les citoyens attendent de leurs élus et de leurs institutions qu'elles soient sincères dans leur démarche participative. Mais la réalité, c'est que derrière, il faut des outils. Alors, comment ils se différencient les outils ? Ils se différencient par... justement la méthode. Et c'est là où je suis vraiment pas d'accord avec Madame Mazo. En fait, dans la méthode, il y a aussi une idéologie derrière. Donc moi, je veux choisir, en tant qu'élu, élu démocratiquement par les citoyens, la méthode que je veux leur proposer pour dialoguer et construire ensemble. Après, si d'autres veulent faire par ailleurs des choses, qu'ils le fassent par ailleurs et qu'ils s'y engagent. Mais quand c'est avec l'argent public, moi, je veux être sûr qu'on le fait avec les bons outils. Vous avez Mikawa, Fluicity et tous les autres. Quand je suis un maire d'une petite commune, une commune de 3500, 15 000 habitants, 20 000 habitants, en dessous de 10 000, on n'a pas les moyens, mais entre 10 et 20 000, et que je veux mettre en place, j'ai pas un directeur informatique, j'ai pas un responsable de la démocratie participative. Donc j'ai besoin d'avoir un outil qui est pas cher, global, et qui est utilisé par d'autres villes qui ont ma taille. Et là, je vais prendre celui-là, ou plutôt celui-là. Si je suis l'État, c'est pas pareil. Moi, j'avais la chance d'avoir dans mes services au ministère toute une administration en charge de cela, avec des experts qui travaillent sur tous les mêmes outils depuis plusieurs années. Eux, ils ont besoin d'outils beaucoup plus souples que eux-mêmes peuvent redévelopper, reconstruire et réinventer. En fait, les outils, ils sont vraiment au service des autres. Moi, il y a juste un truc que je veux vous dire. C'est comme si à la radio, on débattait de la caméra pour la télé en disant « Vous vous rendez compte, c'est le marché de la caméra qui impose les images ». C'est pas le marché de la caméra qui impose des images. On a un imaginaire autour des images et on utilise des caméras pour les filmer. Et ben, on a un imaginaire et une volonté politique sur la démocratie participative et on a des outils pour y arriver.
Maïté Rouhan, vous qui avez travaillé sur justement ces petites contre-sociétés ou ces contre-propositions démocratiques qui viennent de la base, vous les voyez comment, comme pouvant accéder justement à ce niveau supérieur ou avec la volonté pour certaines d'entre elles de rester dans leur écosystème sans avoir la volonté de déborder plus loin et de devenir des modèles pour l'ensemble d'un pays ou l'ensemble d'un continent.
Ce que vous dites, en fait, ça recoupe la théorisation de Eric Olin Wright entre les stratégies interstitielles, où finalement, ça va être des petites expérimentations qui essayent de transformer le système, mais dans les mailles du système institué, et qui n'essayent pas de venir bousculer les normes dominantes, et les stratégies symbiotiques, où justement, on essaye de pénétrer, on va dire, les institutions de l'intérieur, et on essaye de les subvertir de l'intérieur. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est pour ces expérimentations, c'est d'articuler les deux stratégies, à la fois de construire dans les territoires des solutions les plus adaptées aux habitants et en même temps de tisser des partenariats avec les institutions qui préservent le conflit. Parce que je pense qu'une des choses qui est sous-jacente à nos débats, c'est comment articuler la participation et le conflit. Finalement. Mmh. Comment la participation, même au niveau institutionnel, peut préserver la dimension conflictuelle.
Et Antoine Brachet, on dit par exemple que dans cette convention citoyenne sur le climat, dont vous êtes un de ceux qui a participé à la construire d'une certaine façon avec vos sociétés, en particulier avec Démocratie Ouverte, qu'est-ce qu'on dit que, bien, on a été surpris de voir surgir comme cela des propos qu'on n'attendait pas, qui étaient justement conflictuels, avec une parole qui ne rentrait pas dans la ligne d'une certaine façon, et qu'est-ce qu'on en fait de ça?
Bah déjà, c'est une bonne nouvelle que la parole s'exprime. Alors, juste pour être précis, donc Démocratie Ouverte est une association dont je suis un des trois coprésidents actuels, à titre bénévole, et qui effectivement s'occupe de comprendre comment est-ce qu'on peut faire avancer les mécaniques démocratiques, notamment avec les acteurs qui ont été évoqués. Pour revenir au point, je vois déjà une très bonne nouvelle, c'est que le Grand Débat National n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire. Néanmoins, il a quand même accouché de la Convention citoyenne sur le climat en proposant finalement un format qui n'aurait pas été disponible sinon et qui a été accepté et d'ailleurs en accord avec le gouvernement pour essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut en faire. Derrière, la parole s'y libère, c'est une excellente chose. Ce qu'on essaye de faire dans la Convention citoyenne pour le climat, notamment avec Mathilde Himmer qui est ma coprésidente en charge de ce projet-là, c'est de s'assurer de former suffisamment 150 citoyens pour leur faire s'interroger en leur donnant accès, y compris à des experts, etc., sur quelles solutions on est capable de trouver. Évidemment, dans le chemin se passe un certain nombre de débats. On évoquait avant l'émission Bruno Latour, je parlais de sa question des interdépendances.
L'idée... Bruno Latour, donc, qui a travaillé par exemple sur la préparation aussi de la COP21 à un moment, etc. Il a fait partie de ceux qui, en tant que philosophe, en tant qu'analyste de sciences sociales de la société, s'est dit il faut rentrer dans ce type de proposition pour pouvoir réfléchir à comment changer les méthodes démocratiques vis-à-vis de cette question du climat.
Exactement, parce qu'on est humain en fait. Je pense qu'il faut juste qu'on l'oublie pas. Et on est humain, donc on s'exprime souvent par émotion, d'abord. Ensuite, la question, c'est qu'une fois que l'émotion est passée, une fois que la purge est passée, une fois que la catharsis est passée, comment est-ce qu'on arrive à engager la bonne nature de conversation, celle qui permet potentiellement de trouver des solutions qui ne correspondent pas exclusivement à mon intérêt personnel, mais à mon intérêt bien compris, compte tenu de celui des autres, les interdépendances que j'étais en train d'évoquer. Donc, et c'est aussi une réponse à Madame Mazot, c'est certes, aujourd'hui, on en est, de mon point de vue, à une époque un peu préhistorique, où on parle d'ailleurs de démocratie participative. Moi, j'aimerais qu'on arrive à avancer vers des questions plutôt de démocratie délibérative. Et la question qui se pose derrière, c'est pas de dire le citoyen est roi. Je pense aussi à monsieur Tavaillot sur comment gouverner un peuple roi. Non, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à articuler la discussion, la conversation entre différentes personnes en fonction des besoins. Ces personnes peuvent être des experts, peuvent être des citoyens, peuvent être des élus. Il faut faire justement créer cette valse à trois temps entre ces trois parties prenantes pour faire monter le jeu de la conversation. Et les citoyens n'ont pas forcément besoin de s'exprimer à n'importe quel moment, ne serait-ce que parce que à certains moments, on a beau avoir envie de s'intéresser à ces sujets, on a autre chose à faire de sa vie. On doit manger, on doit se nourrir, on doit s'occuper de ses enfants, on doit voilà.
Alice Mazot.
Oui.
Simplement en réaction avec ce qui vient d'être dit à la fois par Mounir Majoubi et par Antoine Brachet.
Oui, là où effectivement je suis en désaccord avec ce que disait Monsieur Majoubi, c'est il dit, bah voilà, l'élu et son équipe ont des imaginaires et du coup ils vont chercher de l'outil au service d'eux. Je crois que c'est pas ce qu'on nous on observe dans la réalité d'une façon générale. C'est plutôt là où je le rejoins. Il y a des outils qui potentiellement ont un imaginaire et en même temps ils l'ont pas tous forcément. Ou il y a eu une vraie capacité à évider les certains outils de leurs imaginaires. Et là, le budget participatif, je suis désolée, est emblématique de ces outils dont la composante politique, idéologique a été complètement vidée. Et donc, on est plutôt...
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Bah, c'est-à-dire que le budget participatif, c'était un instrument de justice sociale, de redistribution, etc. C'est devenu, dans nombre de cas, un dispositif qui sert à aller financer des petits projets, etc. Et donc, il n'y a plus du tout d'ambition transformatrice comme il pouvait avoir dans sa conception originale. Et donc, la réalité aujourd'hui, sur le terrain, ce qu'on observe, c'est plutôt la situation où on a des outils disponibles, des outils qui, pour certains, sont arrimés à des projets politiques. C'est pas toujours le cas, et que finalement on a des élus qui vont aller chercher de l'outil et qui finalement vont parfois se réapproprier ce qui est sous-tendu, mais pas toujours.
Quelle est la formation de tous ceux qui fondent des sociétés qu'on appellera pas de civic tech, parce qu'il faut pas les appeler comme cela. Est-ce que ça vient du domaine de l'entreprise, de l'ingénierie, du design industriel? Ça vient d'où?
Alors sur les civic tech, je répondrai pas parce que nous on n'a pas spécifiquement travaillé sur les civic tech parce que c'est finalement la part la plus récente du marché que nous on a travaillé. Mm-hmm. En revanche, si on prend en général les structures qui interviennent dans le champ de la démocratie participative, ce qui est frappant, c'est l'hétérogénéité en fait de ce monde professionnel. On a à la fois des gens qui viennent de la communication, on a des gens qui viennent de l'accompagnement au changement dans les entreprises, et on a des gens qui viennent de l'éducation populaire. Et donc on a un univers qui est extrêmement hétérogène. On a évidemment des gens qui viennent de l'archi, de l'urbanisme, etc. Mmh. Et univers très très hétérogène dans lesquels nous on avait repéré deux tendances assez marquées. Soit des gens qui, effectivement, sont ce qu'on a appelé des spécialistes de la démocratie participative, qui souvent endossent une posture en même temps assez militante, et qui considèrent que, à travers la diffusion des outils, ils vont, quelque part, contribuer à la transformation de nos sociétés et de nos démocraties. Et donc, des gens dont c'est le cœur de métier. Mmh. Et on a, de l'autre côté, tout un tas d'entreprises qui se sont diversifiées en allant aussi sur le terrain de la démocratie participative, où on y retrouve à la fois les gros cabinets conseils, les grosses sociétés d'ingénierie, etc., sur cet univers-là, et où c'est pour eux, finalement, une activité comme une autre, qui est une composante de leur domaine d'intervention.
Monir Joubi.
Oui, il faut le rappeler, c'est un des rares secteurs de la tech française où justement il y a une très grande diversité des parcours et où il y a une surreprésentation des personnes issues de milieux associatifs et du milieu du service public. Plutôt des diplômés de Sciences Po que des diplômés d'HEC, plutôt des gens issus de l'ESS que des gens issus des grandes entreprises. Juste une chose sur le budget participatif et où on va se retrouver, c'est que les outils et la méthode sans un projet politique engagé et une organisation humaine, ça ne sert à rien. Le budget participatif, il a été pensé comme outil de la dimension communautaire, comme la capacité à mobiliser des personnes pour changer le monde autour d'elles. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas dans les grandes villes qui ont dévoyé le budget participatif. On n'est plus en train de le faire. Si vous regardez le budget participatif de Paris, je suis député du 19e, c'est l'arrondissement le plus pauvre de Paris. Bah, les projets dans les quartiers les plus pauvres du 19e, ils sont à côté
et
de la plaque.
Temps, vous êtes
parce qu'il n'y a personne. Non, je ne suis pas candidat.
Vous soutenez un candidat.
Je suis pas candidat. J'ai essayé de l'être.
Hein. Ouais, je
ne le suis pas.
Maïté Rouane, est-ce qu'on pourrait dire, puisque vous avez observé le cas de Barcelone, qu'il y a une sorte de circulation internationale des idées autour de ces questions de la démocratie participative? C'est-à-dire, est-ce qu'on va chercher à un endroit, à Barcelone, ou est-ce qu'on va chercher depuis Barcelone vers l'extérieur des expérimentations en se disant, tiens, ça, on pourrait essayer ça ailleurs, on pourrait essayer ça à Paris ou dans un autre endroit. Est-ce que vous avez vu justement ce type d'exportation ou d'importation?
Vous avez au niveau européen le réseau Ville Rebelle, qui est un espace de circulation des imaginaires, des pratiques expérimentées par les élus dans les différentes villes européennes. À l'échelle espagnole, vous avez différents réseaux des candidatures municipalistes, où justement les nouvelles candidatures du changement en Espagne essayent de transférer leurs pratiques et de créer des relations aussi avec les militants qui restent dans la rue.
Une autre des questions, Antoine Brachet, c'est de se demander ce qu'on fait de cela une fois que la Convention citoyenne sur le climat sera donc terminée. Elle va déposer des propositions. Le gouvernement a dit on prendra tout. Enfin, certains ont dit on prendra tout, d'autres ont dit peut-être pas tout. Et puis, il va y avoir conflit avec la représentation nationale. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a articulé cette question entre ce type de démocratie participative et puis simplement la démocratie représentative telle qu'elle existe?
À ce stade, je pense qu'on ne peut plus être dans le déni du fait que les gens ont besoin, envie de s'exprimer sous une forme ou une autre et que leur avis soit pris en compte. À partir de là, la question que vous posez est effectivement celle à laquelle on doit désormais s'adresser. C'est celle de l'articulation entre cette nouvelle forme de démocratie et la démocratie représentative pour que puisse, comme le disait Mounir Majoubi, s'institutionnaliser dans une certaine mesure justement ces nouveaux processus et qu'ils puissent être pris en compte dans le cadre de ce qui sera la loi, etc. Moi, je pense qu'il faut juste peut-être apporter un complément d'information. C'est que on dit depuis le début, la démocratie, c'est un enfant qui est en train de grandir. On apprend au fur et à mesure, etc. J'ai un peu le sentiment qu'il faudra apprendre à grandir un peu vite. Parce que quand je vois Mark Zuckerberg qui, début d'année 2017 ou 2018, je crois, dit « Ok, alors mon nouveau hobby, parce qu'il y en a un par an, là c'est la démocratie », et que je vois les moyens dont on dispose pour justement essayer de proposer quelque chose de nouveau, de justement de se permettre en fait tous ensemble autour de cette table, de créer le débat justement autour de ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Et que j'ai en face des moyens qui sont incommensurables pour potentiellement proposer quelque chose qui est dans un univers fermé, je m'interroge sur la manière dont on peut faire avancer les choses un peu plus rapidement, parfois.
Mounir Majoubi, est-ce que le groupe LREM, par exemple à l'Assemblée nationale, pourrait accepter la totalité de ce qui va être proposé par cette convention citoyenne sur le climat, ou est-ce qu'il y aura des résistances parce qu'on dira, c'est pas à eux de décider, c'est aussi à nous, on est les représentants de la nation.
Oui, rappelons que dans notre démocratie, dans la 5e République française, la voix du peuple, c'est bien l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que ceux qui tous les 5 ans sont réélus par l'intégralité des Français pour les représenter, et la loi, c'est l'Assemblée. L'Assemblée, c'est pas juste des gens de là-haut, c'est
le peuple représenté. J'entends bien, c'est justement.
Par contre, le mode de fonctionnement et de travail de l'Assemblée n'est pas le même que celui de la Convention telle qu'elle est aujourd'hui en train de fonctionner. Il se passe des choses dans cette Convention qui sont extrêmement intéressantes, qui sont passionnantes. La question est, est-ce que cette Convention lui a demandé de réfléchir en fonction du budget de la France? Est-ce que cette Convention lui a demandé de réfléchir en fonction des contraintes de cette année? Pas forcément. Non. On lui a demandé de réfléchir avec des contraintes qui sont quand même celles de la réalité. La réalité écologique, la réalité économique. À la fin, il va falloir qu'on prenne des grandes décisions, et ça devra se faire avec le Parlement. Mais vous savez, la majorité LREM aujourd'hui est celle qui a le plus promu ces démarches de consultation participative. Donc à nous maintenant d'être responsables et d'offrir un accueil à ces propositions pour les transformer en réalité dans la vie des Français. Mais ce qui est certain, c'est pas avec une communauté de 100 à 150 personnes tirées au sort qui vont travailler pendant plusieurs semaines qu'on va décider que le lendemain, tous les services publics seront chargés d'appliquer ces décisions.
Donc ça va rendre notre démocratie plus complexe. Ça va créer des...
Plus riches.
Non, mais la richesse, c'est une complexité.
Ce que je constate en tant que député, et quand j'ai été ministre, c'était la même chose, c'est qu'on va trop vite sur des sujets où on n'a pas assez impliqué les Français et où les Français n'ont pas encore intégré eux-mêmes ce qu'ils avaient voulu pour certains sujets. Avec ce type de démarche, on prend le temps et on crée la densité pour que les gens se posent la question de ce qu'ils veulent autour de ces sujets. Moi, c'est ça que je trouve fantastique dans ces démarches.
Alice Mazo, un dernier mot justement sur ces tensions qu'il peut y avoir entre représentation, que ce soit au niveau municipal ou au niveau régional, et puis ces tentatives justement de créer une démocratie plus ouverte et plus participative. Très brièvement.
C'est la question récurrente sur tous ces dispositifs depuis leur départ. C'est-à-dire que du point de vue procédural, je veux dire, ils sont toujours mieux organisés, la qualité délibérative, elle est meilleure, etc. En revanche, la question de leur finalité et de ce qu'elles produisent reste une question sur laquelle on a très peu avancé. On a une multiplication de procédures qui, finalement, ne servent à rien ou à pas grand-chose. Et dans ce que j'entends de ce que dit Monsieur Madouis, ça m'interroge beaucoup parce que, en fait, de renvoyer aux députés à la représentation nationale, c'est l'argument classique de ce qu'on appelle l'écoute sélective, c'est-à-dire les gens vont parler, c'est bien, ils vont pouvoir s'exprimer, et puis après, nous, on triera en fonction des priorités, en fonction des vrais sujets, en fonction du budget. Je crois que si la démocratie participative, elle n'est pas mature aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on est encore dans ce type de débat-là.
Voilà. Dernier mot.
C'était légèrement caricatural. Moi, je crois que l'équilibre, c'est ça qui nous attend.
Merci à vous, Antoine Brachet. Merci à vous, Mounir Majoubi. Merci à vous, Maïté Rouane. Et merci, Alice Mazot, dont je rappelle le livre Le marché de la démocratie participative aux éditions du Croquant avec Magali Nonjon. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille et Louise André. À la technique aujourd'hui, Jérémy Kaufmann. Et à la réalisation, Marie-Laure Ciboulet.